Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors c'était le sujet de son dernier livre et Franck Ferrand nous propose aujourd'hui sur Europe 1 de revenir sur la disparition du tsar Nicolas II et de sa famille. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le tsar Nicolas II, la tsarine Alexandra, leurs quatre filles, Olga, Tatiana, Maria et Alexandra, et puis bien sûr le petit dernier, le tsarevitch Alexis, tous les sept ainsi que quatre de leurs derniers serviteurs sont réputés avoir été massacrés par les bolcheviks le 18 juillet 1917 dans un entresol sordide de la maison Ipatiev à Ekaterinbourg. C'est en tout cas ce que nous disent les manuels d'histoire. Et bien cet après-midi, je vous propose de jeter un regard volontairement critique ou en tout cas sceptique sur cette version officielle.
Et vous le ferez en compagnie de Jean Descartes.
Jean Descartes, auteur d'une superbe saga des Romanov notamment, et qui, disons-le tout de suite, ne partage pas forcément mon point de vue sur le sujet.
Ça promet un débat passionnant. Alors vous qui nous écoutez, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les adresser par mail à l'adresse d'Europe 1, www.europe1.fr et sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire.
Une émission aujourd'hui pleine de mystères comme nous les aimons.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Le tsar dont je vais vous parler aujourd'hui est le dernier des tsars, l'ultime souverain régnant de la longue, de la tricentenaire dynastie des Romanov. Tout à l'heure, avec Jean Descartes, nous reviendrons sur les plus illustres de ses prédécesseurs et de ses devancières, car il y a eu quelques tsarines tout à fait extraordinaires, Élisabeth, Catherine, etc. Mais c'est bien sur Nicolas II que j'aimerais m'arrêter maintenant. Nicolas, le jeune et doux héritier de son père, l'ogre Alexandre III, et qui monte sur le trône à la mort de celui-ci en 1894, dans une Russie, disons-le, alors en proie à tous les troubles. L'agitation révolutionnaire ne va faire du reste que croître et se ramifier pendant le règne du dernier Romanov et au tournant du XXe siècle, on peut dire que l'Empire est déjà mûr pour la Révolution. Comment dire, le très aimé Nicolas le Pacifique est-il devenu dans l'esprit des masses russes le détesté Nicolas le Sanguinaire? Eh bien ça, c'est toute la tragédie de son règne. Ça commence, vous savez, par de belles réformes, les réformes d'un très grand ministre qu'on a un peu oublié, nous, dans notre Occident, le grand Stolypine, assassiné en 1911. Et puis ça va se poursuivre plus tard avec un développement industriel, agraire, culturel aussi très important, développement politique sans précédent en Russie. Mais entre-temps, disons-le, le train russe a déraillé. La guerre perdue contre le Japon amène une première révolution en 1905, inaugurée par le fameux Dimanche Rouge. La bourgeoisie libérale, qui n'est pas satisfaite des maigres concessions politiques qu'on a pu lui faire, cette bourgeoisie se coupe du régime au moment où le peuple souffre, et souffre comme jamais, voilà qui va refaire le lit d'un terrorisme dont il faut aller chercher les racines loin dans l'histoire russe, au moins dès les débuts du XIXe siècle, et même peut-être encore plus loin. 1914, la Grande Guerre va faire le reste, avec cette erreur fatale du tsar qui, en prenant lui-même le commandement en chef, on est en septembre 1915, va s'éloigner de Saint-Pétersbourg où il laisse la tsarine gouverner, en tout cas régner seule, sous la tutelle plus ou moins officielle et surtout plus ou moins choquante du mage Rasputin, dont nous avons bien sûr parlé déjà longuement à ce micro. Seul à ses yeux, ce Rasputin capable de sauver le tsarevitch Alexis atteint d'hémophilie, vous le savez. Finalement, le tsar abdique en mars 1917. Il est mis en résidence surveillée au palais Alexandre de Tsarskoye Selo. Ça va durer comme ça jusqu'à l'été. Et puis la famille est envoyée en Sibérie, à Tobolsk, officiellement pour la mettre en sécurité, parce que les choses sont en train de dégénérer dans la révolution russe. Elle sera plus tard rapatriée vers Moscou, mais je dis bien vers Moscou, parce que la famille est immobilisée en route à Ekaterinbourg, dans l'Oural, une ville qui sera rebaptisée Sverdlovsk entre 1924 et 1991. À partir de ce moment-là, c'est vraiment pour la famille, pour le tsar, pour la tsarine, pour leurs enfants, c'est la descente aux enfers. Les exactions du chef des gardiens, hein, qui s'appelle Avdeyev, et de ses hommes, vont être de plus en plus choquantes, jusqu'à la relève d'un homme qui s'appelle Yourovski, et sous la direction duquel les choses ont l'air de s'arranger pendant un moment. On pourrait d'ailleurs établir, certains l'ont fait bien sûr, un parallèle avec la situation de la famille royale de France, avec la situation de Louis XVI et des siens à la tour du Temple dans les derniers temps. Nous sommes donc à l'été 1918, arrive le 16 juillet, il est déjà minuit, même minuit passé, quand l'ex-famille impériale est réveillée. On demande aux membres de la famille de se préparer pour partir devant l'avancée des troupes contre-révolutionnaires. Il faut savoir qu'à l'époque, la portion du territoire russe qui est contrôlée par les bolcheviks, par les rouges de Moscou, est en train de se réduire comme une peau de chagrin devant l'avancée un peu partout des troupes blanches, des troupes contre-révolutionnaires. Et donc c'est parce que les contre-révolutionnaires sont aux portes de Yekaterinburg qu'on projette, c'est en tout cas ce que pense le tsar à l'époque, on projette de l'envoyer ailleurs. Il se lève, il s'habille, on conduit les membres de la famille par l'extérieur jusqu'à une petite pièce entresolée qui est très dépouillée avec des murs en plâtre mal tapissés d'une sorte de papier jaunâtre à rayures. L'ex-empereur porte son fils dans ses bras, le tsarevitch a 13 ans mais il est très diminué par la maladie. On apporte une chaise à Nicolas, une autre pour l'ex-impératrice. Les quatre grandes duchesses sont là, bien entendu, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, ainsi que le médecin de la famille, le docteur Botkin, et trois serviteurs, une femme de chambre, un valet et un cuisinier. Tout le monde s'aligne plus ou moins comme s'il s'agissait de prendre une photo. On attend. Et puis soudain, des bruits de bottes, 12 hommes entrent. Ce sont 12 tueurs. Ce sont d'anciens bagnards et des prisonniers hongrois. On entend au dehors le moteur très bruyant d'un camion qu'on a fait démarrer comme s'il s'agissait de couvrir d'autres bruits. Et puis là, des détonations. Le chef des tueurs, Yourovski, tire un papier de sa poche et il lit vivement « Les vôtres ont cherché à vous libérer, nous devons vous fusiller ». Et là, c'est le carnage à bout portant au pistolet. Les détonations qui résonnent, les balles qui ricochent, la fumée qui envahit la pièce et puis prenant à la gorge l'odeur de sang répandu. On dit que le tsarevitch aurait rampé, on lui défonce le crâne à coups de crosse, une femme cherche à s'échapper, on la piétine, on la transperce à coups de baïonnette. Les grandes duchesses ne se sont pas effondrées tout de suite parce que elles avaient elles-mêmes d'ailleurs cousu dans leur corset tous les bijoux qu'elles avaient pu sauver, et ça leur a fait, dit-on, comme des gilets pare-balles. Et puis toujours cette odeur de sang, etc., qu'on retrouve dans trois témoignages. Reste à placer les 11 corps sanguinolents dans de grands draps, à les charger dans le camion au moteur toujours pétaradant et à les évacuer en direction des fondrières de Ganina, à quelques kilomètres de là. L'histoire, vous savez, est toujours pleine d'ironie. J'essaie toujours d'ailleurs de souligner les clins d'œil. Et en l'occurrence, la grosse villa qui servait de prison et a abrité le martyr de l'ex-famille impériale s'appelait la maison Ipatiev, du nom du marchand auquel on l'avait prise. Elle avait été réquisitionnée, cette villa. Eh bien, Ipatiev, c'était justement le nom du monastère d'où était parti, 3 siècles plus tôt, le premier Romanov à monter sur le trône. Alors, j'ai eu l'occasion pour la télévision de faire un documentaire sur tout ça. On racontait ça, bien entendu. Et quelques temps après la première diffusion de ce film sur France 3, un film auquel participait du reste Jean Descartes, je suis invité sur le plateau d'une émission de mon ami Stéphane Bern, vous savez, qui s'appelle Le Secret d'Histoire, pour parler des Romanov. Il y avait là plusieurs personnes, dont Hélène Carrère-Dancos, etc. Et il y avait un historien d'origine canadienne que je ne connaissais pas, qui s'appelle Michel Vartel. Et dans les loges, avant de monter sur le plateau, Michel Vartel se met à me raconter des choses assez incroyables sur les circonstances qu'il considérait comme les circonstances réelles de la disparition de la famille impériale. C'était tout à fait intéressant. J'ai commencé à faire ma propre enquête sur l'histoire, à découvrir un certain nombre de livres qui avaient été publiés sur le sujet. Et là, eh bien, j'ai découvert des choses assez extraordinaires. Il faut savoir que, dès le 25 juillet 1917, une semaine seulement après le massacre de la maison Ipatiev, les armées russes blanches ont pris possession de cette région de l'Oural et qu'une enquête détaillée a été diligentée en vue de trouver et de retrouver les 11 corps et accessoirement de faire la lumière sur cette tragédie. Alors, Comme tout le monde, je savais qu'un certain juge Sokolov, en 1919, avait interrogé un certain nombre de témoins. Le juge Sokolov a rendu des conclusions qui sont tout à fait univoques. Les corps, dit-il, ont été... Alors, il dit bien que tout le monde a été massacré dans la maison. Les corps ont été jetés dans un trou de mine, puis repris, déplacés, arrosés d'acide, brûlés, et les cendres, enfin ce qui restait des corps, enterrés. Voilà où nous en sommes avec la version officielle, mais vous verrez que bien d'autres versions existent.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un récit d'au cœur de l'histoire qui s'intéresse aujourd'hui à la fin des Romanov, Franck.
Le juge Sokolov, qui donc a été chargé par les responsables russes blancs de l'enquête sur les circonstances de la disparition de la famille impériale, va retrouver à Ganina un certain nombre de cendres, un bout de doigt, quelques fragments d'eau et des lambeaux de vêtements. Ces reliques suivent les émigrés du reste jusqu'en Belgique, où elles vont devenir l'objet d'un véritable culte, et l'église russe orthodoxe en exil, je vous le signale, a béatifié les martyrs de la famille impériale. Pendant des décennies, on a glosé sur le massacre. Une partie des émigrés refusait de l'admettre. C'était le cas notamment de l'impératrice douairière, la mère de Nicolas II, qui était née Dagmar de Danemark, et qui, elle, refusait d'admettre que son fils ait pu être tué. L'attention de l'opinion, bien sûr, vous le savez, s'est concentrée sur cette fameuse affaire Anastasia. Anastasia était la plus jeune des quatre filles du couple impérial, et on disait qu'elle avait peut-être survécu au massacre d'Ekaterinbourg, et on a notamment pensé que ça pouvait être la fameuse Anna Anderson. Vous savez que depuis, il y a eu des expertises ADN qui ont totalement mis fin à toute cette affaire Anastasia. Vous savez ce que je pense en ce qui me concerne des expertises ADN. Je ne remets jamais en cause les résultats scientifiques de l'analyse, mais je me demande toujours sur quel reste on travaille. En l'occurrence, sur des viscères qui étaient restés, qui étaient des restes d'une opération chirurgicale qu'avait subie Anna Anderson. Tout ça est toujours un peu suspect. En 1976, l'affaire va rebondir là-bas sur place, dans ce qui est à l'époque l'Empire soviétique de Léonid Brejnev. Un écrivain proche du ministère de l'Intérieur, et je souligne ça, il était même très proche. Le scénariste à succès du régime, qui s'appelle Guéli Ryabov, va effectuer un déplacement à Sverdlovsk, donc dans l'ancienne Ekaterinbourg, pour y présenter un film sur la police soviétique. Or, son ami, le ministre de l'Intérieur, lui a glissé avant qu'il ne parte « Vous devriez aller faire un tour à la maison Ipatiev, vous verrez, c'est très bizarre ». L'année suivante, il faut préciser, en 77, donc, cette maison Ipatiev sera rasée par le patron local du parti, qui à l'époque s'appelait un certain Boris Yeltsin et qui agissait sur les ordres du patron des services secrets, du célèbre KGB, qui n'était autre que Yuri Andropov. Je ferme toutes ces parenthèses. En attendant, Ryabov rencontre un spécialiste de ces événements, un géologue, le professeur Avdonin, qui se passionne pour la recherche des corps. Il rentre à Moscou et grâce à ses relations, il accède à des archives, archives protégées sur la révolution d'octobre. Et là, il tombe sur un document tout à fait extraordinaire, document dont je m'empresse de vous dire que l'authenticité est contestée par certains historiens russes. C'est le rapport, ce serait en tout cas le rapport manuscrit destiné au comité central de Yakob Yurovsky lui-même, le chef des tueurs. Et le récit de Yurovsky ne fait évidemment que confirmer avec énormément de précision la version officielle telle que je viens de vous la raconter. Dès le printemps 78, avec Avdonin, notre personnage, donc Guéli Ryabov, se lance dans des fouilles sur place. Il déterre trois crânes, dont un qu'il identifie comme celui du pauvre Nicolas II. Il faudra attendre la perestroïka pour que ses travaux soient rendus publics. Et puis, en 91, donc après l'effondrement de l'Empire soviétique, Boris Yeltsin, le même Boris Yeltsin qui avait fait raser la maison, du reste, ordonne des fouilles officielles sous l'égide du laboratoire de l'Institut d'Histoire et d'Archéologie de l'Université de l'Oural. Fouilles qui donnent lieu donc à l'exhumation plus ou moins complète de 9 cadavres que l'on expertise. Je dis bien 9 et non pas 11. Selon Yurovsky, 2 auraient pu être complètement brûlés, probablement les plus petits, ceux du tsarevitch Alexei et de sa sœur Anastasia. Vous verrez que depuis, on a retrouvé aussi, dit-on, ces deux corps. Des travaux sont menés au centre Aldermaston en Grande-Bretagne et à l'Institut de pathologie des forces armées des États-Unis, sous l'égide de l'expert russe Pavel Ivanov. Et ces travaux certifient à 99,98%, vous voyez un peu, pour le coup, ça c'est un score soviétique, certifient qu'il s'agit bien des restes de l'ex-famille impériale, moins de membres et des quatre serviteurs. Pourtant, l'Église russe en exil ne veut rien savoir. Elle accuse l'ancien KGB, devenu entre-temps le FSB, d'être à l'origine d'une gigantesque mystification et se cramponne aux quelques reliques exhumées dans le puits de mine en 1919 par Sokolov. Du coup, sans doute pour des raisons diplomatiques, l'Église orthodoxe russe ne tarde pas à reconnaître l'authenticité des restes impériaux et lors de la cérémonie d'inhumation des martyrs à Saint-Pétersbourg, en la forteresse Pierre et Paul, en 1998, on remarque l'absence du patriarche orthodoxe Alexis II. De manière plus scientifique, des équipes d'experts ont elles-mêmes mis en doute les résultats des études de 91. C'est notamment le cas de l'équipe d'un professeur en biochimie japonais. J'ai déjà eu l'occasion de citer son nom à ce micro, Tatsuo Nagai, de l'Institut médico-légal de l'Université Kitotsato, qui a comparé l'ADN, prétendu être celui de Nicolas II, avec celui relevé sur les taches de sang d'un mouchoir qui avait été utilisé par le futur empereur au moment d'un voyage au Japon qu'il avait fait dans sa jeunesse et au cours duquel il avait été victime d'un attentat qui n'avait pas c'était un attentat mortel, évidemment. Et puis, il y a également une équipe de l'université américaine de Stanford qui a beaucoup contesté les conditions de réalisation des expertises de 91. Les deux, en tout cas, ont conclu aux erreurs et refusent d'admettre la validité de ces expertises. Et comme pour faire taire tout cela, en juillet 2007, le ministère russe de l'Intérieur annonce la découverte et l'authentification par l'ADN des deux derniers corps, donc qui seraient probablement ceux d'Anastasia et Alexis. C'est en tout cas ce que dit le ministère russe de l'Intérieur. C'est beau, hein, tout ça, c'est rondement mené. Circuler, nous disent M. Poutine et ses conseillers, il n'y a plus rien à voir. Que les Romanov reposent en paix à la forteresse Pierre et Paul et nous laissent diriger tranquillement leur immense empire, ou en tout cas ce qu'il en reste.
La scène du couronnement de Boris Godounov, composée par...
C'est merveilleux, ça.
C'est sublime, on l'écouterait jusqu'au bout, mais on n'a pas le temps, je crois. Composée par Modeste Moussorgski.
Moussorgski, évidemment. Alors, apparaît ces certitudes assénées, restent d'autres certitudes, celles de Michel Vartel dont je vous ai parlé, restent aussi et surtout peut-être les doutes officiels et publiés d'un homme comme Marc Ferraud dans Les tabous de l'histoire en 2002. Quand même, vous savez, quand on y songe avec un regard critique, cette thèse officielle est un petit peu dure à avaler. 11 personnes, les 7 membres de la famille plus 4 serviteurs, 11 personnes assassinées au pistolet par 12 tueurs, tout ça dans une pièce qui mesure 21 mètres carrés, vous avouerez que c'est un peu dur à avaler. Reste aussi et surtout le maître-livre, le dossier Romanov, paru en 1976 d'Anthony Summers et Tom Mangold. Qui sont-ils? Bien, ce sont deux journalistes de la BBC qui enquêtaient en 69 sur le destin des Romanov et qui, au cours de leur enquête, ont été amenés à découvrir des documents tout à fait extraordinaires. Notamment, ils ont fini par mettre la main sur un sac de documents qui avait été déposé en 1936 à l'Institut Hoover de l'Université californienne de Stanford, un sac qui contenait tous les dossiers d'un certain Nikandre Miroliubov et qui assurait, ce bonhomme assurait à l'époque la surveillance judiciaire de l'enquête. Eh bien, ces dossiers, ils sont bourrés de témoignages explosifs, des témoignages que Sokolov connaissait, mais qu'il s'est bien gardé de retenir dans ses conclusions, devenues la vérité officielle.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et sur Europe 1, on s'intéresse aujourd'hui à la fin des Romanov.
Et oui, et cette fin des Romanov qui ne s'est peut-être pas passée comme on le dit. Le livre de Summers et Mangold recense un certain nombre de détails assez troublants. Je vous rappelle en deux mots la situation. À l'été 1918, le monde évidemment est en plein conflit, sauf que la Russie révolutionnaire vient de signer une paix séparée avec l'Allemagne. Elle n'en connaît pas moins la guerre civile et les Rouges qui tiennent Moscou reculent, je vous l'ai dit tout à l'heure, reculent partout devant les Blancs. Les Blancs, pardon. C'est le cas, les Blancs aussi pour certains d'entre eux, mais pas tous. C'est le cas dans l'Oural et notamment à Ekaterinbourg où les armées blanches sont à deux doigts de reprendre la ville et de libérer le tsar et sa famille. Ce serait la raison pour laquelle les bolcheviks auraient liquidé leurs prestigieux otages, et ce, dans leur prison, la désormais fameuse maison Ipatiev. Quelques jours plus tard, les Blancs prennent effectivement la ville aux Rouges, et l'une de leurs priorités, c'est de savoir ce qu'est devenue la famille impériale, d'où la première enquête. Attention, cette première enquête, ce n'est pas celle de Sokolov. Le premier enquêteur désigné par les contre-révolutionnaires s'appelle Namiotkin. Il inspecte à chaud la maison, il fouille les environs, etc. Et il pense que la famille a été déportée, donc pas tuée ici. Seulement voilà, sans qu'on sache pourquoi, Namiotkin est limogé et du reste, il va mourir 4 jours plus tard dans des circonstances extrêmement troubles. Il est remplacé le 7 août 1918 par le magistrat-instructeur Sergueïev. Notez qu'on ne parle toujours pas de Sokolov. Sergueïev va travailler 6 mois durant sur le mystère de la maison Ipatiev. Et ses conclusions sont formelles, je le cite, « Je ne crois pas que le tsar, sa famille et ceux qui les accompagnaient aient pu être fusillés ici. » Une opinion qui du reste est conforme à celle d'un diplomate anglais des plus fiables, Sir Charles Elliot, dépêché sur place par le Foreign Office et qui disait, lui aussi, que, je cite, « les officiels les plus haut placés, les mieux informés, sont absolument convaincus que Sa Majesté impériale n'a pas été assassinée, mais transférée et placée sous garde allemande. » Mais me direz-vous, dans ces conditions, pourquoi cette version officielle ? Eh bien, la version officielle, elle aurait été élaborée plus tard, en vérité. Il faudrait avoir le temps de faire un historique détaillé au jour le jour des dissensions qui ont agité le gouvernement russe blanc après le 11 novembre 1918. Et on y trouverait à coup sûr les motivations, certes un peu complexes, mais passionnantes de cette version officielle. Il faudrait aussi prendre le temps de noter jour après jour l'enchaînement des circonstances au moment de la nomination du troisième et dernier enquêteur officiel. Alors là, ça y est, en février 1919, on nomme Sokolov. Et aussitôt la nomination de Sokolov, tout se précipite. Un télégramme chiffré qui aurait été, paraît-il, abandonné par les bolcheviks au bureau de poste local lui surgit littéralement sous les yeux. On lui apporte la déposition clé en main d'un soi-disant témoin du meurtre, mais qui mourra du typhus avant qu'il ait pu le rencontrer. On lui fournit des restes de la famille impériale, extraits d'un puits de mine voisin, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, et jusqu'au cadavre du petit chien de la grande duchesse Tatiana. Faut-il préciser que tout ça va dans le sens de la nouvelle version officielle, bien entendu. Les conclusions de Sokolov deviendront paroles d'évangile. Or, elles ne s'appuient que sur 4 éléments. Un télégramme qui s'est révélé être un faux patenté. Un témoignage oculaire, pour le moins sujet à caution. Des bijoux et des effets personnels qui ne prouvent évidemment rien du tout. Enfin, le corps d'un petit chien si bien conservé qu'il en deviendrait miraculeux. Ajoutez à tout cela le fait qu'on n'ait jamais revu vivant un membre de la famille, mais ça c'est aussi un fait contesté, y compris entre nous soit dit, à propos de la fameuse Anastasia. On en vient alors forcément à se poser la question « et si certains avaient survécu ?» Eh bien, c'est en tout cas ce que prétend Michel Vartel, qui est allé à la recherche des prétendus survivants de la famille impériale. Et selon lui, Anastasia, parce qu'il croit, lui, que c'était Anna Anderson, serait donc bien morte en 84. Olga serait morte, la grande duchesse Olga, en 1976. Maria, en 70. Et Tatiana, de son côté, aurait été exfiltrée par les services britanniques avant tout cela. Quant à l'impératrice Alexandra, nous dit Michel Vartel, elle serait morte à Florence, en Italie. Et elle serait morte en 1942, au couvent des Soirées della Montelate via San Gallo. Alors pour tout vous dire, il y a 18 mois, lors d'un séjour à Florence, je m'y suis rendu, moi, à ce monastère des Soirées della Montelate. Je n'ai bien sûr pas révélé aux sœurs qui m'ont reçu très gentiment, du reste, quelle était la raison réelle de ma visite. Mais j'ai pu rencontrer une dame, une vieille nonne, Suore Agostina, qui était entrée dans ce couvent en 1937 et qui donc était là au moment où, selon Michel Vartel, l'ancienne tsarine, sous le nom d'Alicia Dacia, serait venue s'y réfugier. Alors, si j'en crois Suore Agostina, qui se rappelle tout très bien, aucune dame russe n'a été reçue au Mantelate dans les années 1940. Mais en revanche, m'a-t-elle dit, comme si elle se souvenait d'un seul coup, elle me dit « Mais il y avait une dame anglaise, accompagnée de sa femme de chambre. Ah oui, elle a été accueillie. Elle était sous la protection spéciale du pape et elle serait morte en 1942. » Alors, vous allez me dire, c'est pas une preuve, ça, c'est même loin d'être suffisant, naturellement, pour tirer des conclusions. Mais on peut dire que, du moins, ça ne ferme pas tout à fait la porte au rêve. Et à ce moment-là, l'historien soupire et le romancier commencent à s'amuser. L'historien qui soupire, en l'occurrence, c'est Jean Descartes que nous retrouvons aussitôt après le flash de 14h pour revenir sur toute l'histoire des Romanov.
Avec plaisir, à tout de suite, Franck, précisément 14h sur Europe 1. Merci à tous de votre fidélité.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
On vous retrouve, Franck, avec votre invité aujourd'hui, Jean Descartes, qui est historien, écrivain, journaliste, auteur de nombreux ouvrages, dont la saga des Romanov, de Pierre le Grand à Nicolas II chez Plon.
Jean Descartes, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien, parce qu'il est un de nos chouchous à ce micro. Merci Jean d'être venu nous parler de ces Romanov que vous connaissez si bien.
Merci de votre invitation.
Et que vous avez vous-même contribué à enterrer, si je puis dire. Vous étiez là, vous, en 1998, au moment des grandes cérémonies.
Et j'ai même couvert l'événement pour Europe 1. Et François, oui, le 17 juillet 1998, j'ai assisté, en compagnie d'Alain Carrère-Dancos, à une scène absolument inouïe, invraisemblable quelques années plus tôt. On a vu à midi, dans la forteresse Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg, le président russe Boris Eltsine, pas trop vacillant, il n'avait pas encore forcé sur la vodka, s'incliner et demander pardon devant les restes alors identifiés et inhumés de la famille impériale rapatriée par avion militaire de Ekaterinbourg, et sa femme s'agenouiller sous le regard d'à peu près une trentaine d'ambassadeurs qui avaient fait le déplacement, d'un certain nombre de hautes personnalités, en particulier le prince de Kent représentant la reine d'Angleterre et dont la ressemblance avec Nicolas II avait quelque chose de surréaliste dans cette cérémonie. Alors, monsieur Eltsine a demandé pardon publiquement pour les crimes, je cite, dans l'ordre du bolchevisme, du stalinisme et de leurs successeurs. Alors je vous dirais que quelles que soient les conditions et les supputations autour de l'événement, il est assez extraordinaire d'entendre cette confession et que, personnellement, je trouve que c'est un exemple de courage politique qu'on aurait aimé voir en France, par exemple, après les horreurs de la Révolution. Mais en tout cas, c'était formidable.
Ce qui apparaît assez clairement quand on se promène en Russie, et Dieu sait que vous êtes un habitué des lieux, vous connaissez tout ça très très bien, c'est que le règne, si je puis dire, en tout cas le mandat de Boris Eltsine, apparaît sur un plan historique comme une parenthèse entre effectivement le monde communiste d'avant 1991 et puis une sorte de nouveau régime qui s'est mis en place après Boris Eltsine, sous l'impulsion de Vladimir Poutine, et qui se montre évidemment beaucoup moins intéressé, beaucoup moins présent sur le plan de l'histoire et de sa liaison au tsarisme. On a l'impression que sous Boris Eltsine, il y a eu un intérêt particulier pour les tsars en général et pour Nicolas II spécialement.
Alors je pense qu'il y a deux observations que l'on peut faire. La première, c'est que l'assassinat officiel de la famille impériale avait quand même dérangé.
Merci pour l'officiel, j'ai bien noté.
Avait dérangé l'opinion en Russie, notamment l'assassinat du Tsarevitch, un enfant hémophile, déjà dans un état épouvantable et dans une mare de sang. Ça n'avait jamais été vraiment accepté, car c'est une malédiction en Russie de tuer des enfants. Ça, c'est un premier point. Je pense qu'à ce point de vue-là, la Russie, qui allait tellement mal, la fin de la Russie soviétique, qui était en faillite, avait besoin psychologiquement et, je dirais pratiquement, besoin d'enterrer les Romanov et d'enterrer un cauchemar. Mais le deuxième point qui est important, il ne faut pas croire qu'il s'agit simplement d'une nostalgie impériale. Il s'agit de remettre en mémoire tous les passés de la Russie. C'est la raison pour laquelle, et ça c'est très courageux, j'ai vu je ne sais combien de fois, notamment sur la place Rouge à Moscou, quelque chose d'insensé, des défilés d'anciens soviétiques avec un portrait du tsar et de Staline. Vous imaginez en France des gens défilant avec le portrait de Louis XVI et de Robespierre. C'est impensable.
Ça Louis-Philippe a essayé de faire ça au milieu du XIXe siècle. Il a essayé.
Mais... Il a essayé. Et si vous voulez, c'est impensable, c'est-à-dire que la Russie redécouvre tous ses passés. Et en ce sens, et à ce point de vue-là, je trouve très courageux et remarquable l'attitude du gouvernement russe, de M. Poutine, puis de M. Medvedev et compagnie, parce que il n'y a pas, si vous voulez, d'exclusif, il n'y a pas d'interdit, il y a les réussites de Staline,
c'est une politique de grandeur,
il y a les horreurs de Staline, il y a les horreurs de la monarchie, il y a les grandeurs, c'est-à-dire... Et c'est très important, ça démontre que l'histoire n'est pas du tout un menu à la carte, mais c'est un menu complet et les Russes assument tout, y compris la vérité dérangeante, épouvantable, qui a été quelquefois imposée pendant des années.
Jean Descartes, vous êtes l'auteur de la saga des Romanov, de Pierre le Grand à Nicolas II, chez Perrin, qui est maintenant disponible en livre de poche chez Pocket. Nous allons revenir justement sur ces très grandes figures de la dynastie Romanov, sur Pierre le Grand, sur Catherine, sur Alexandre Ier, autant de grandes arts qui ont fait la Russie et qui nous sont finalement très familiers aussi, à nous, sur un plan culturel, sur le plan de l'imaginaire collectif.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Vous venez d'écouter un extrait du concerto pour violon numéro 1 de Tchaïkovski, Franck.
Tchaïkovski, le maître absolu. J'ai entre les mains le numéro spécial d'Historia sur la Russie des tsars. Enfin, je dis numéro spécial, non, c'est le numéro de mai, tout simplement, qui s'appelle La Russie des tsars, avec en couverture Nicolas II, bien entendu, Catherine II, évidemment, Pierre le Grand, c'était tout naturel, et... Ivan le Terrible, j'allais dire chercher l'intrus pour ce qui est des Romanov. C'est bien un tsar de Russie, mais ça n'était pas encore un Romanov, Ivan le Terrible. Jean Descartes.
Non, il faut dire que l'histoire de la Russie est très compliquée. Comme l'a dit Winston Churchill, et ça corrobore un peu votre thèse, la Russie, c'est un mystère dans une énigme. Et il y a de quoi faire. Il n'y a que des choses étranges en Russie et que des choses folles, sinon ça ne serait pas la Russie. Alors, bien avant la dynastie des Romanov, donc bien avant Michel Ier Romanov, au début du XVIIe siècle, il y a effectivement... d'autres dynasties, c'est ce qu'on va appeler d'une façon générale le temps des troubles, le temps des usurpateurs, ce n'est pas encore l'Empire russe, c'est le temps des principautés, cet anneau d'or, de ces états...
Passionnant d'ailleurs.
Oui, absolument remarquable, qui ont laissé d'ailleurs des chefs-d'œuvre d'architecture religieuse, entre autres, et avec des personnages qui nous sont connus, pour nous les Français, essentiellement par la musique et par le cinéma, parce qu'il faut bien dire que c'est très compliqué, alors aussi bien Ivan le Terrible que Boris Godounov, etc.
Évidemment, le film d'Eisenhower Einstein sur Ivan le Terrible
bien
a beaucoup
entendu.
Contribué à la célébrité du personnage.
Et pour
avec
nous, c'est un apprentissage tout à fait remarquable. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une continuité quand même dans la recherche historique, aussi bien de Nicolas II et d'Alexandre III qui vont soutenir la création des opéras, par exemple Boris Godounov, mais Staline va, comme les bolcheviks, encourager la production de films remettant en honneur des hautes figures de l'histoire russe à l'origine. Donc les films muets d'Eisenstein, etc., indépendamment de la propagande politique.
Les soviétiques avaient un certain respect pour l'histoire russe.
Oui, mais Staline, par exemple, en 1942, au moment de l'invasion de la Russie, transforme en ordre, je dirais, laïque, l'ordre de, n'est-ce pas, d'Alexandre Nevski, qui n'est plus Saint Alexandre Nevski, mais qui est un ordre militaire pour défendre la terre russe. Il y a donc une continuité.
Bien sûr.
Puis enfin, Staline a fait ce qu'avait dit Pierre le Grand, il nous faut une marine, il n'y a pas d'État sans marine. Donc il y a quand même une... C'est pas toujours la rupture qu'on a annoncée, et je voudrais quand même préciser aussi qu'à la révolution de 1917, il n'y a aucun vandalisme contre le patrimoine.
C'est remarquable.
Ça, c'est très important. C'est mis de côté, c'est sous une bulle, c'est un musée. Lénine dit il faut respecter le passé. Le respect du passé n'est pas l'admiration du passé.
Il n'y a pas un bouton de porte qui disparaît.
En fait, ce dont va souffrir la Russie de l'ancien régime, disons, ce sont les mauvaises conditions d'intendance, de climat, de guerre, mais pas de vandalisme comme, hélas, nous l'avons connu en France.
Et notamment de guerre, bien entendu. Le vandalisme en France, c'était d'ailleurs pas un vandalisme populaire, ça nous entraînerait très loin, mais c'était bien un vandalisme d'État, oui. Si tout a été mis à l'encan. Ça, c'est encore une autre histoire. Alors, on a bien mis de côté le tsar Ivan. Le premier des Romanov, c'est un certain Michel Romanov.
Qui sera le seul tsar élu. Et c'est le fondateur de la dynastie qui va régner un peu plus de 300 ans sur la Russie. Alors, enfin, un peu d'ordre, un peu de stabilité en Russie. Je dois dire que la ville de Moscou, c'est intéressant, était un symbole de conspiration, de désordre et surtout, je dirais, d'immobilisme et d'orientalisme, n'est-ce pas, derrière les murs du Kremlin, cette forteresse en bois, et il y en a partout des Kremlins à cette époque, il n'y a pas que celui de Moscou. On ne sait pas ce qui se passe. Et la religion orthodoxe accentue cette distance, cet éloignement. C'est exactement ce que Pierre le Grand reprochera à cette Russie tournée vers l'Orient. Pourquoi ? Parce qu'elle a choisi la religion byzantine orthodoxe, ce qui fait que la Russie a, hélas, échappé à ce courant civilisateur que sera la Renaissance venue d'Italie, puisque sa religion ne vient pas de Rome, de la latinité. Donc, alors, tout l'effort
le Pierre
Romanov,
dont vous parlez, il est à la une, deux, trois, quatrième génération.
À la quatrième génération, il faut bien dire que cet homme fantastique qui mesure...
Il monte sur le trône en 1689
et qui est né à Moscou et qui a tout de suite pris en horreur les complots et le fait que c'était une autarcie sociologique, les gens restaient entre eux, ça manquait d'air frais et c'est comme ça qu'il va avoir l'idée de créer une nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, pour que celle-ci soit une fenêtre ouverte sur l'Occident. C'est lui qui fait entrer
Saint-Pétersbourg,
l'air frais.
C'est bien la ville de Pierre.
C'est la ville sainte de Pierre et cet homme va pouvoir prendre le contrôle de la Baltique et faire venir des architectes, des ingénieurs, des médecins, tous trouvés à l'Occident pour essayer de rattraper le retard de la Russie.
Ce contrôle de la Baltique, vous avez raison d'y insister parce que c'est fondamental. C'est la fameuse bataille de la Poltava en 1709 qui va donner, j'allais dire définitivement, à la Russie, tout le pouvoir, toute l'hégémonie sur ce nord et cette Europe du nord-est, hégémonie qui aurait très bien pu être suédoise.
Mais elle était suédoise, ouais. Avec le roi Charles XII.
La superpuissance, ça aurait pu être la Suède, en fait.
Oui, absolument. Un roi dont Voltaire faisait le panégyrique à condition d'être subventionné, mais ça, c'était Voltaire. Alors, en fait, Pierre le Grand est... Remarquez aujourd'hui que les croiseurs nucléaires russes s'appellent souvent Pierre le Grand. Pierre le Grand va créer donc un contrôle sur la Baltique en même temps que créer cette ville de Saint-Pétersbourg. Donc il va défendre, je dirais, la puissance et la présence de la Russie vers le nord et ensuite s'attaquera, et ce sera continué par Catherine II, à la présence vers le sud contre les Turcs avec la mer Noire. Mais c'est pour border les frontières de cet empire qui est immense, dont on ne connaît pas du tout les limites. C'est un travail fabuleux que fait Pierre le Grand en très peu de temps.
Entre Pierre et Catherine, il y a cette tsarine Élisabeth dont on parle très peu en France, mais qui en Russie est au moins aussi populaire que Catherine.
Mais oui, parce
en fait.
Qu'il y a un règne très féminin en Russie au XVIIIe siècle. Bon, il y a aussi dans le reste de l'Europe quelqu'un comme l'impératrice Marie-Thérèse, bien entendu, mais il y a une succession de tsarines, nièces, filles, parentes de Pierre le Grand, qui vont être des femmes remarquables, d'autant plus remarquables que certaines sont illettrées, mais vont créer une école de ballet qui sera la base d'une des grandes cultures russes, puis soviétiques, puis russes à nouveau, des instituts scientifiques, et qui tiennent avec une poigne de fer la place de la Russie face notamment à la Prusse qui est en train de monter, celle
voilà,
de Frédéric.
C'est la puissance montante de Frédéric. Donc la grande figure de la fin du XVIIIe, c'est effectivement cette Catherine II, la Catherine
qui
la Grande.
Qui est allemande, hein. C'est intéressant. À ce moment-là, les Romanov deviennent, je dirais, germano-russes et elle aura beau dire à ses médecins, à ses chirurgiens qui la saignent tous les matins, retirez-moi mon sang allemand pour que je sois tout à fait russe, il n'y a pas de doute. Elle vient de Stettin, c'est une femme forte avec un caractère extraordinaire, une maîtresse souveraine de l'Empire et de l'Europe.
Elle est tournée, elle aussi, plus encore peut-être même vers l'Europe, hein, totalement.
Oui,
on est dans
parce
une période.
Elle écrit en français à Diderot, à Voltaire.
Elle possède une bibliothèque merveilleuse.
Oui,
d'ailleurs,
oui,
pas
oui.
Seulement, elle collectionne toutes sortes d'objets, y compris des objets très. Très érotique.
Très érotique, oui. Elle a une très forte réputation, de très fort tempérament. C'est, voyez-vous que c'est très à
tout,
la mode depuis
ancien,
longtemps,
oui.
Bien sûr.
Son fils, Paul Ier, aura fort à faire pour libéraliser le statut des serfs, pour aider les paysans et le clergé rural, mais ses méthodes restent quand même très despotiques. Hein. On voudrait faire de Paul Ier quasiment un démocrate avant la lettre. On est bien là, dans le règne absolu, des despotes éclairés.
Les despotes éclairés, mais chez lui, la lumière était, à mon avis, intermittente, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas le tempérament ni la vision de sa mère. Vous allez me dire que ça n'est pas facile d'être le fils de Catherine II, c'est évident. Alors il passera pour déséquilibré, pour fou, il finira d'ailleurs assez mal.
Assassiné en 1800.
Il faut quand même dire qu'il y a en Europe des échos contrastés, c'est le moins qu'on puisse dire, de la Révolution française. Il se passe beaucoup de choses, il y a des certitudes remises en place, on ne sait pas du tout où va l'Europe, où va la France, la Révolution, le Directoire, l'exécution de Louis XVI, tout ça, ça perturbe beaucoup de gens. Oui. Et la philosophie des Lumières est un petit peu ternie. Voilà.
La grande puissance à l'Ouest est en plein trouble. Oui. J'aime cette idée aussi qu'à cette époque, les deux grands empires centraux que sont donc la Russie des Tsars et l'Empire, le Saint-Empire, l'Empire en tout cas maintenant d'Autriche, qui va bientôt devenir l'Autriche-Hongrie, sont sous la férule de deux femmes, Catherine en Russie et Marie-Thérèse à Vienne. Du reste, je précise que vous êtes aussi l'auteur d'une saga des Habsbourg, qui elle est parue chez Perrin. Vous êtes en fait l'historien des empires centraux, Jean-Lucas.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et nous sommes toujours en compagnie de l'historien Jean Descartes. On s'intéresse aujourd'hui à la saga des Romanov, un sujet qui fait visiblement réagir.
Oui, alors justement, deux, trois petites mises au point, parce que Jean-Philippe nous dit sur Facebook qu'on a déjà parlé avec le même invité, c'est vrai, avec Jean Descartes, de ce sujet il y a quelques mois. Ben oui, mais on s'en lasse pas, nous, de la Russie des Romanov. Et là, je tenais à le faire au moment, notamment, où Historia fait ce grand dossier sur la Russie des Tsars. Je pense que c'est pas mal, de temps en temps, de revenir sur ce beau sujet. Une auditrice, Patricia, nous dit cette fois par internet que en Russie, assassiner un enfant porte malheur. Ça dépend quel enfant, dit-elle, pas les enfants tués dans les pogroms. Alors évidemment, là on parlait de la tradition historique russe et notamment de la tradition des tsars. Et puis c'est Frédéric qui, décidément, je ne sais pas si c'est l'effet Strauss-Kahn, mais les auditeurs sont chagrins aujourd'hui, ronchons.
C'est bien, en tous les cas, qu'ils réagissent en direct. Je trouve ça intéressant.
Enfin, ils réagissent, c'est bien, oui. Alors c'est Frédéric qui nous dit... quand même, s'excuser d'avoir raccourci Louis XVI, ce serait un peu fort de café. Ce qu'a dit Jean Descartes tout à l'heure, et je ne pense pas trahir sa pensée, il ne s'agit pas de demander pardon pour Louis XVI, mais de demander pardon pour les crimes de la Révolution, et Dieu sait qu'ils ont été très nombreux.
Je peux simplement dire à l'auditeur que la valeur pédagogique de la connaissance du passé est incontestable, et vous avez dans la gare d'Ekaterinbourg, sur la ligne du Transsibérien, dans la salle d'attente, une immense fresque qui date d'il y a 6-7 ans, qui raconte toute l'histoire de la Russie, sans oubli, sans occultation, et qui montre notamment l'affrontement entre les rouges, les bolcheviks, les blancs, les monarchistes, et au milieu, la famille impériale, bon, qui monte de la maison Ipatiev vers le ciel. C'est tout à fait russe, il faut comprendre ça. On a besoin d'une force de symbole, et je trouve très courageux qu'on le raconte, parce que nous, on a quand même eu tendance à effacer les crimes de la Révolution.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Russes, à une époque, ont eu aussi tendance à effacer un certain nombre de
choses. Absolument. Mais je veux dire, c'est formidable qu'ils y reviennent.
Les premiers remugles de la Révolution, c'est très tôt dans le 19e siècle, en fait. Hein.
Ah, très tôt, oui. Il est certain que pour l'Empire russe, la catastrophe de la guerre contre le Japon, qui est une faute majeure, est un... galop d'essai, en quelque sorte. Lénine le reconnaîtra. Cela dit, je pense que compte tenu des progrès de l'Empire russe, toute proportion gardée compte tenu de l'immensité du territoire, vers 1913-1914, au début de 14, était assez remarquable, notamment dans l'alphabétisation. Je dis bien compte tenu des difficultés de communication dans ce pays. Et que sans l'échec militaire de la Première Guerre mondiale, la Révolution, Lénine l'a reconnu lui-même, n'aurait pas éclaté de la même façon ni au même moment. Il fallait que le tsar fût empêtré dans des défaites épouvantables. Ça servit évidemment la cause de la Révolution. D'ailleurs, ensuite, la seule chose qu'il fallait faire pour Lénine, c'était de signer la paix. Et la guerre mondiale n'existant plus, la Russie n'étant plus empêtrée dans un conflit mondial, c'est la guerre civile qui succède et jusqu'en 1922.
Ça se fait presque de fait.
De fait, oui.
C'est dès 1825 que le mouvement décembriste ou décabriste s'attaque...
Oui, sous Nicolas Ier.
Nicolas Ier, oui.
Oui, une tentative de république
c'est
et de
révolution.
C'est
pas un tsar amusant, Nicolas Ier.
Un tsar de fer, oui. Et de pas de fer blanc, hein. Oui. Et qui est un peu le gendarme de l'Europe, mais qui va aider, par exemple, la Grèce à trouver son indépendance avec la Grande-Bretagne et la France. Pas un homme sans doute très intelligent, mais il faut bien voir ce que c'était que la Russie qui avait subi l'émotion effrayante de la campagne de Russie. Et il fallait se remettre de la tentative de Napoléon. Je signale aux auditeurs qu'aujourd'hui encore, dans les environs de Moscou, les grands-mères disent à leurs petits-enfants qui ne sont pas sages, « Si tu n'es pas sage, j'appelle le général Corse ». Ça a donc laissé des traces.
Le général
Ils sont
Corse,
fascinés.
C'est le nôtre, hein, bien
c'est
entendu.
Le nôtre. Ils sont,
c'est Napoléon.
Les Russes comme les Britanniques restent fascinés par l'audace de Napoléon.
Oui, oui. Et c'est vrai que cette période d'Alexandre Ier les a d'ailleurs marqués sur un plan culturel de façon définitive. Quasiment.
Ah ben, il y a les textes de Gogol qui sont très importants. Gogol qui écrit par exemple que Saint-Pétersbourg est si peu russe que c'est une ville étrangère dans son pays. Effectivement, c'est une ville qui ne ressemble pas au style russe et qui a cette architecture, ces couleurs qui font notre admiration aujourd'hui. Et heureusement, Staline a méprisé la ville qui était devenue Petrograd en 1917,
Saint-Pétersbourg
puis
devenu Petrograd.
Leningrad, etc. Et pour la punir en quelque sorte, et que en fait la ville a été mise sous une bulle et a retrouvé petit à petit, à coup de restauration, son charme, je dirais, notamment 18e, 19e, où on peut lire en se promenant des pages de Dostoïevski.
Nous avons reparcouru presque toute l'histoire de cette Russie impériale depuis l'accession, depuis l'avènement du premier des Romanov, Jean Descartes, rapidement bien sûr. Si Jean-Philippe est d'accord, j'aimerais bien qu'un jour on consacre une émission à Alexandre II, parce qu'alors là, vous parliez de mystères et d'énigmes, oui. Il y en a quelques-uns hein, de ces mystères.
Celui-là est assez fantastique, oui. Parce qu'il nous tient toujours en haleine.
Et le père de Nicolas II, comme ça la boucle sera bouclée, c'était donc Alexandre III, cette espèce de géant qu'on connaît à Paris du fait du nom du pont Alexandre III, simplement.
Oui. Oui, le colosse, il était si gros que lorsqu'il montait à cheval, on disait on ne sait pas lequel des deux est la bête.
Jean Descartes, voilà le genre d'anecdote qui parsème la saga des Romanov de Pierre le Grand à Nicolas II, c'est chez Plon, hérédité chez Pocket, et puis la saga des Habsbourg, c'est chez Perrin. Merci beaucoup Jean Descartes d'avoir
Merci
été des nôtres. J'espère que vous reviendrez souvent, vous voyez.
Quand vous voulez.
Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous.
Je disais que nos auditeurs étaient un petit peu chagrins pour certains d'entre eux, mais vous allez leur redonner le moral, j'en suis sûr.
Oui, puisque vous nous avez proposé pendant une heure un voyage au cœur de l'histoire, nous on va les embarquer au cœur de leur histoire, puisque pendant une heure, on va parler de généalogie. Quel est le sens, l'origine de votre nom de famille? Une émission très ludique, pour le savoir, il suffit tout simplement de nous appeler et on va analyser vos patronymes. Il suffit de nous joindre au 39 21 dès maintenant, on est en direct. Vous pouvez également nous écrire faustine.europe1.fr. On va essayer de traiter un maximum de noms de famille issus donc du Moyen-Âge. On va parler donc peut-être un petit peu d'histoire aussi aujourd'hui.
La généalogie, c'est la porte dérobée, d'autant plus passionnante, vers l'histoire, la grande et la petite.
Exactement.
Merci beaucoup Faustine et à demain Julien.
Avec grand plaisir, je serai là Franck, à demain.